Bonsoir à tous. La parole des victimes au procès du 13 novembre. Une parole jamais entendue jusqu'ici de ceux qui étaient aux abords du Stade de France et sur les terrasses ce soir-là. Avis de gros temps sur la Manche, quel accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs français? Les Britanniques rechignent, la France menace de représailles rapides ce soir, alors que des dizaines de licences expirent demain. Dans l'actualité encore, la guerre au Yémen est peut-être à un moment de bascule. Terrible combat en ce moment dans le centre du pays. Le gouvernement veut se garder le pass sanitaire sous la main jusqu'à l'été prochain au moins. Sandrine Rousseau pose des conditions à un soutien à Yannick Jadot. Ils se sont vus cet après-midi. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Et bien ce soir, le téléphone sonne est dans l'aventure de l'ARN messager. Il y a encore à peine un an, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde sait que les vaccins qui nous sortent du Covid sont des vaccins ARN. On a aussi lu, entendu beaucoup de bêtises. Alors ce soir, un auteur qui raconte l'histoire de l'ARN, un médecin qui y a participé et vous qui avez besoin et envie de comprendre tout cela, se mélange au téléphone Johnson et au 01 45 24 7000.
France Inter. Ce sont des vies brisées qui défilent à la barre au procès du 13 novembre et qui ont commencé à raconter le choc des explosions au Stade de France, des rafales de tirs sur la terrasse du Carillon, la sidération, le carnage. Charlotte Piret, vous êtes en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Et il y a des victimes qu'on n'avait encore jamais entendues.
Comme ces vendeurs d'écharpes aux abords du Stade de France pour compléter les fins de mois, disent-ils. 14 d'entre eux font partie d'une même famille d'origine serbe. Ils se rassemblent au McDo, à quelques mètres à peine du troisième kamikaze. Il y a Asnesana, hospitalisée pendant un an le jour pour qu'elle puisse rentrer auprès de son petit garçon de 3 ans. Il y a Tina, qui venait d'accoucher de sa troisième fille, qui ne sait pas le nombre de boulons qui l'ont percutée. Elle a perdu un poumon, son bras gauche est invalide. Il y a encore Atsa et Livia, seules. Atsa témoigne de leurs difficultés, leur sentiment d'avoir été les victimes laissées pour compte. Livia, elle, est hémiplégique et pour beaucoup de choses, elle est un enfant de 5 ans, dit son mari. Assise dans son fauteuil, Livia sourit doucement.
Ce sont les témoignages de ceux qui étaient aux abords du Stade de France, Charlotte, et maintenant ceux qui étaient sur les terrasses.
Sur le grand écran, un plan de la terrasse du Carillon. Olivier était au bout avec Sébastien, mort ce soir-là, de 7 balles dans le corps, explique Olivier. 7 balles, ça fait ça. Boum ! Il hurle dans le micro. Boum ! Boum ! Boum ! Il crache sa colère à la barre. Et puis viennent les larmes de Maya, architecte, qui a perdu 3 proches ce soir-là. Amine, son mari, l'homme de ma vie, et ses 2 amies, sœurs jumelles, Charlotte et Émilie. Elle-même est touchée aux jambes, mais ne sent pas tout de suite la douleur. Ce que je sens, c'est la mort derrière moi, raconte la jeune femme en larmes. Il y a un homme, j'entends son râle, je sais que ce sont ses derniers instants. Elle n'a jamais su son nom.
Charlotte Piret avec Selim Guéribi pour le compte-rendu de cette douloureuse audience aujourd'hui au Palais de Justice à Paris. Les témoignages des parties civiles vont durer 5 semaines au total. L'émotion et l'hommage national cet après-midi à Maxime Blasco, le caporal-chef de 34 ans, tué ce week-end au Mali dans une opération de la force anti-djihadiste Barkhane. Une cérémonie d'hommage avait lieu cet après-midi aux Invalides, présidée par Emmanuel Macron, que vous avez suivi. Sébastien Sabiron.
Oui, une cérémonie très sobre, très simple, très brève, marquée d'abord par l'entrée du cercueil de Maxime Blasco au son de la marche tambour. Un cercueil recouvert du drapeau tricolore et porté par ses frères d'armes du 7e bataillon de chasseurs alpins en treillis blanc. Après avoir salué les différents corps d'armée et les proches du militaire, Emmanuel Macron s'avance face au cercueil.
Sergent Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur.
Le caporal-chef, élevé au rang de sergent, est décoré à titre posthume, couronnement d'une carrière jalonnée de faits d'armes et de décorations, dont la médaille militaire. Maxime Blasco l'avait obtenue en sauvant la vie de 2 de ses camarades lors de sa quatrième mission au Sahel en 2019. Lui-même avait été grièvement blessé. Rosada est venue lui rendre hommage.
Ça me concerne un petit peu, parce que mon fils est militaire. Il est déjà parti au Mali et c'est très dur. J'ai un petit-fils de 7 mois et j'ai peur.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, le fourgon mortuaire avait traversé le pont Alexandre III. Moment émouvant pour Thomas, étudiant de 20 ans.
Il y a une dimension d'hommage et à le respect. Il ne faut pas oublier que s'ils sont là-bas, c'est pour que nous, on soit tranquilles à la maison. C'est ce qui est important de retenir, c'est que nos vies sont faciles et que d'autres ont une vie beaucoup plus dure. des familles voient leurs proches tomber. Et c'est des gens qu'on devrait surtout respecter, honorer et jamais vilipender parce qu'ils n'ont jamais un travail très facile.
Et la cérémonie s'est achevée par ce moment sans doute le plus émouvant de la sortie du cercueil de la Cour des Invalides. Le cercueil suivi par Alexandra, la compagne de Maxime Blasco, et de son fils, Ethan, 8 ans, coiffé du béret si particulier des chasseurs alpins.
Maxime Blasco, le 52e soldat français tué au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013. La France qui réorganise son dispositif militaire dans la région, mais elle prévient vertement le Mali aujourd'hui que ce ne soit pas une raison pour se rapprocher du groupe de mercenaires russes Wagner. Si le pays le faisait, il perdrait le soutien de la communauté internationale. Et la ministre des Armées s'est même emportée contre les propos du premier ministre malien qui accuse la France d'abandon. Propos scandaleux, indécent pour Florence Parly au moment où l'on rend hommage au sergent Maxime Blasco.
À 19h06, Hélène, les pêcheurs français sont en eau trouble et la France commence à hausser le ton.
L'accord post-Brexit doit être respecté, martèle la France, alors que Londres, Jersey et Guernesey rechignent toujours à délivrer des autorisations de pêche aux bateaux français. La ministre de la Mer menace clairement la Grande-Bretagne de représailles.
Les Britanniques mettent énormément de mauvaise foi et veulent appliquer des critères qui ne sont pas dans l'accord. Donc le sujet, il est très clair. Les Britanniques n'appliquent pas l'accord. Nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui.
Vous déplorez, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, côté français ou côté européen?
La politique commune des pêches est la première des politiques intégrées européennes. Eh bien, elle est là, mise à l'épreuve. Eh bien, nous avons et nous allons demander l'application des mesures de rétorsion puisque nous estimons que les Britanniques ne sont pas au rendez-vous de leur engagement. Quelques exemples. Il y a bien sûr le rail, la flotte à passagers, les flux commerciaux, l'accueil des étudiants. Jersey est un paradis fiscal, par exemple. Eh bien, on peut se reposer un certain nombre de questions. Vous le voyez, les leviers sont nombreux et la riposte doit être à la hauteur du mépris que vient de nous exprimer le Royaume-Uni.
Annick Girardin, ministre de la Mer avec Yael Gauze. Le conflit dure depuis des mois et c'est donc une conséquence directe du Brexit. Philippe Lefebvre nous refait l'histoire.
Eh bien, avant le Brexit, tous les pêcheurs européens pouvaient venir capturer des poissons dans les eaux britanniques, des eaux très poissonneuses du fait de conditions climatiques favorables. Et les pêcheurs français, mais également belges et néerlandais, y réalisaient 80% de leurs prises. Situation injuste aux yeux des Anglais, car pour vous donner un exemple, les pêcheurs européens hors Grande-Bretagne avaient le droit de pêcher chaque année 982 tonnes de cabillaud, tandis que leurs homologues britanniques ne pouvaient en pêcher que 118. Alors après le Brexit, eh bien, Londres a décidé de mettre en place des licences de pêche, des autorisations pour les Européens, à une condition, c'est qu'ils puissent prouver qu'ils allaient régulièrement pêcher dans les zones en question, au large de l'Angleterre et des îles anglo-normandes. Et le problème, c'est que sur 139 demandes, seules 76 ont été acceptées, ce qui pose un problème de survie économique pour deux tiers des pêcheurs français, essentiellement de Normandie et des Hauts-de-France. Et cette guerre des licences pourrait avoir également des conséquences pour les pêcheurs anglais qui vendent la majorité de leurs poissons en Europe, puisque les Anglais ne consomment que 30% des poissons pêchés par les chalutiers britanniques.
C'est bien une question de survie, disent les pêcheurs, et la colère commence à monter très fort. Jean-Luc Hall est le directeur général du Comité national des pêches.
Ça gronde, en fait, ceux qui nous alertent sont les présidents des comités régionaux qui sont en contact direct avec ces pêcheurs. Et qui nous disent, pour certains, c'est vrai que la tension est en train de monter. Ceux qui se retrouvent ou qui se retrouveraient sur cette fameuse liste rouge pour lesquels il n'y aurait pas d'autorisation, et ils seront sans doute disposés à, avec l'énergie du désespoir, à intenter des actions. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des gens qui n'auront plus rien à perdre s'ils ne peuvent plus pêcher dans ces eaux. Les premières menaces, c'est de braver l'interdiction et d'aller poser son matériel qui malheureusement pourrait mal se terminer parce que ça peut être un déroutement, une verbalisation, etc. Et je crois que personne n'a intérêt à ce que ça dégénère à ce point.
Le directeur général du Comité national des pêches avec Cécilia Arbona. Et outre-Manche, l'autre sujet du moment, c'est évidemment la pénurie dans les stations essence notamment. Et le gouvernement fait donc appel à l'armée. 150 militaires sont en train d'être formés pour remplacer les chauffeurs qui manquent. Il va falloir le garder dans sa poche un petit moment. Le pass sanitaire pourra être utilisé par le gouvernement jusqu'à l'été prochain. Le projet de loi sera présenté mi-octobre. Le pass sanitaire qui sera demandé à partir de demain aux 12-17 ans. Ce qui a fait réagir et manifester les employés de la médiathèque du Mans cet après-midi. Reportage France Bleu, Rudy Guillemin.
Sur leur temps de pause, les agents de la médiathèque se relaient pour occuper le parvis et expliquer aux usagers ce malaise qu'ils ressentent vis-à-vis du pass sanitaire, un accès sélectif contraire à l'article 4 de la charte des bibliothèques, souligne Stéphanie.
Il est dit, les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ouvertes à tous. Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle.
Depuis le 19 juillet, les agents doivent refouler en moyenne 10 à 30 personnes par jour et probablement plus avec l'extension aux 12-17 ans, une réelle source de mal-être pour Natacha et Catherine.
C'est pas notre mission, ça nous prend des agents supplémentaires pour faire cette tâche et ça nous paraît pas normal du tout.
On est un petit peu schizophrène en ce moment, on fait un travail à l'encontre des missions pour lesquelles nous sommes employés par la collectivité.
Alors que les gestes barrières, notamment le port du masque, restent en vigueur à l'intérieur, les salariés ont le sentiment de subir une double peine. Ils craignent aussi que la mesure ne creuse davantage les inégalités culturelles, une position que partage Nora, 17 ans, même si elle pourra continuer à venir.
C'est là où on peut s'informer, on peut se cultiver, on peut faire plein de choses, même réviser. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui aide et qui est propice au développement et au travail. Donc c'est dommage de restreindre un peu ce milieu-là.
C'est pourquoi les salariés demandent l'abrogation du pass sanitaire dans les médiathèques et les musées.
La crise sanitaire n'y a rien changé. Au contraire, plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020. Une baisse plus marquée que les années passées. La PMA pour toutes entre vraiment en vigueur. Aujourd'hui, 3 mois après le vote de la loi bioéthique, le décret a été signé et c'est un soulagement pour les femmes célibataires ou les couples de femmes qui désirent un enfant. C'est le cas d'Élodie, 32 ans, mariée depuis 3 ans. Son épouse a porté leur premier bébé. Elles avaient dû se rendre en Espagne. Cette fois, cela se fera en France. Et c'est l'impression pour elle de sortir de la clandestinité.
J'ai commencé un parcours à l'étranger, en Espagne. Et là, j'ai fait 4 essais qui se sont révélés infructueux et en fait qui ne pouvaient pas fonctionner puisqu'il y avait un problème médical derrière. Je suis obligée de faire une FIV pour pouvoir porter un bébé. Faire la FIV à l'étranger, c'était pas quelque chose que je voulais envisager. Déjà parce que c'est très cher et de deux parce que la prise en charge à l'étranger n'est quand même pas la même, que ça complique tout. Le jour où la loi est passée, donc le lendemain, j'ai appelé le centre de PMA à Nantes et ils m'ont donné un rendez-vous tout de suite. Donc ça a été très rapide. Aujourd'hui même, donc le jour, c'est drôle, hein, mais le jour où le décret passe, on avait le rendez-vous, le fameux rendez-vous psy qui est obligatoire. Et là, le fait de pouvoir le faire ici, il y a une légitimité là qui fait du bien. Ça change tout, en fait.
Un témoignage recueilli par Léa Gadge et à lire en longueur sur franceinter.fr. Les femmes auront donc jusqu'à 43 ans pour le prélèvement d'ovocytes, jusqu'à 45 pour l'insémination proprement dite et pour l'autoconservation des ovocytes qui n'est plus limitée à des raisons médicales. Ce sera à partir de 29 et jusqu'à 37 ans.
En Allemagne, voici donc les félicitations tardives.
Celle de la chancelière Angela Merkel au vainqueur des législatives de dimanche, le social-démocrate Olaf Scholz, et le chef de file de la CDU, Armin Laschet, a fait pareil dans un courrier envoyé lundi mais reçu aujourd'hui. Des félicitations discrètes, communiquées, courrier, un peu vieille école même. On retrouve Ludovic Piétenu, notre correspondant à Berlin, avec la CSU hier. Toute la famille conservatrice a maintenant félicité le vainqueur, hein, Ludovic. Est-ce que ça fait bouger les négociations?
Pas vraiment, car chaque candidat veut croire encore en ses chances, surtout Armin Laschet, d'autant plus que pour la première fois dans la vie politique allemande, ce qu'on appelle ici les petits partis renversent le rapport de force, et face à l'ancien monde, aux vieux partis qui bataillent sur un faible écart de pourcentage, se divisent publiquement ou communiquent par courrier, les Verts et les libéraux du FDP, en toute discrétion, hier soir, se sont vus, et à la fin, un selfie publié sur Instagram avec cette légende, nous explorons ce qui nous est commun, et on arrive même à dépasser les clivages, ce sont des moments passionnants. On sait qu'ils se reverront vendredi. Ce selfie est lui déjà historique, unique en matière de communication politique ici, très partagé, même déjà parodié une centaine de fois. Ils disent, ces partis, tant au SPD qu'à la CDU, que ce sont eux qui tiennent le manche, qui détiennent la clé de la chancellerie, parce qu'à eux deux, ils cumulent plus de voix, plus de sièges de députés que l'un ou l'autre des prétendants, avec qui ils auront quand même des discussions, chacun de leur côté, le week-end prochain.
Et Ludovic, piétenu en direct de Berlin. En Tunisie, c'est une première. Le président vient de nommer une femme au poste de Premier ministre, Najla Bouden, doctorante en géologie. Nomination progressiste, évidemment saluée, même si ses prérogatives ont été fortement réduites par le président, connu pour ses idées conservatrices. L'actualité à l'étranger, c'est aussi une guerre qui n'en finit pas au Yémen. On en parle moins, et pourtant, elle dure depuis 7 ans entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis proches de l'Iran. Et depuis 2 jours, les les affrontements sont intenses autour d'une ville, Marib, dans le centre du pays. Ils ont fait au moins 100 morts parmi les combattants. Une ville que les rebelles tentent d'arracher depuis des mois. Alors on se demande ce soir, Bertrand Galichet, est-on à un point de bascule du conflit ?
Ce qui permet de penser à un moment crucial dans cette guerre où s'affrontent indirectement l'Arabie Saoudite et l'Iran est la situation géographique de la ville de Marib. À équidistance de la frontière saoudienne au nord et du golfe d'Aden au sud, Marib est le dernier bastion des loyalistes soutenus par l'Arabie Saoudite dans cette partie du pays où ils sont en difficulté. À l'ouest, les rebelles Houthis, appuyés par l'Iran, contrôlent déjà la côte de la mer Rouge sur plus de 200 km de large. La prise de Marib, dans un secteur riche en pétrole, leur donnerait un avantage stratégique et les placerait en position de force pour continuer vers Aden et d'autres régions encore tenues par les forces gouvernementales. Ces dernières heures, la coalition arabe menée par les Saoudiens a multiplié les bombardements dans ce secteur. Au sol, les troupes loyalistes ont reçu le soutien de centaines de combattants des tribus locales. L'agglomération où les combats se poursuivent est au cœur d'une région où s'entassent désormais 2 millions de déplacés.
Une guerre qui, je le disais, dure depuis 7 ans et qui, selon l'ONU, a provoqué la pire crise humanitaire au monde.
Le plus dur commence pour Yannick Jadot, désigné donc candidat des écologistes.
L'eurodéputé doit mettre la diversité des verts en ordre de bataille. 50 nuances de verts représentées par Sandrine Rousseau, qui était ce midi l'invitée du 13-14 et qui semble bien mettre son soutien au candidat écologiste sous condition.
La question, elle est de, encore une fois, elle est dans le camp de Yannick. Est-ce que vous saisissez le mouvement qui est derrière moi là ? Est-ce que vous le saisissez dans sa complétude et est-ce que vous le saisissez dans sa force ? Et ce mouvement-là n'est pas un mouvement que l'on attrape juste par quelques mots. C'est un mouvement puissant et un mouvement qui doit aussi porter une autre manière de faire de la politique et qui ne peut pas juste être des pastilles sur un discours. Donc voilà, je suis là. Je pense que ce score est important et qu'il faut l'entendre.
Vous ne dites pas voter Jadot à toutes les conditions. Pardon, je repose ma question, c'est important, on est au lendemain d'une primaire.
Je dis que je suis loyale et que je l'ai dit hier, je suis loyale. Mais que maintenant, il faut aussi que la loyauté soit dans tous les sens et dans les deux sens.
Sandrine Rousseau avec Bruno Duvic et qui s'est entretenue cet après-midi avec Yannick Jadot, candidat écologiste pour la présidentielle. En bref, la condamnation de Valeurs Actuelles pour injures publiques, l'hebdomadaire ultra-conservateur avait publié en août 2020 un récit dépeignant la députée de la France Insoumise Danielle Obono en esclave, accompagnée de dessins la représentant collier en fer autour du cou. Et après les révélations de France Inter sur un possible conflit d'intérêts au sein des jurés du Goncourt, on apprend aujourd'hui que le prix Femina écarte deux romans de sa sélection finale. La carte postale d'Anne Berest et les enfants de Cadillac de François Nudelman, justement ceux qui sont au cœur de la polémique. Un petit bain de mer pour finir. Allez en Bretagne, vous vous croirez en Méditerranée cette semaine, de tout petits coefficients de marée, 24 demain, ça arrive tous les 4 ans environ et quelques pêcheurs à pied sont quand même au rendez-vous dans la baie de Saint-Brieuc. C'est un reportage France Bleu Armorique de Joanne Moison.
Ici, on est habitué à voir la mer se retirer loin, très loin, même jusqu'à 7 km de la côte à Effignac, lors des grandes marées. La baie de Saint-Brieuc est la cinquième baie au monde pour l'amplitude de ses marées. Mais cette semaine, le décor est effectivement bien différent avec ses tout petits coefficients. Yvon, pêcheur à pied de Langueux, n'est pas mécontent.
Il y a moins de monde parce que les gens viennent souvent en grandes marées croyant faire des pêches miraculeuses, ce qui n'est pas forcément le cas. Puis pour la pêche que je pratique ici, il n'y a pas besoin d'un gros coefficient pour me dégager les endroits qui m'intéresse.
Alors, c'est-à-dire
la mer se retire suffisamment pour que je puisse accéder aux endroits que je pêche.
Vous pêchez quoi ici ?
Des coques et des palourdes principalement. Bon, mais il ne faut pas le dire ça, parce qu'après tout le monde va venir quand il y aura des petits coefficients, on préfère être tout seul. Quand il y a des grandes marées, pour voir les voitures, on ne peut même pas se garer. Là, il n'y a personne, c'est facile de se garer.
Yvon n'est pas seul, il est avec un ami, Jean-Yves Sartois.
Je viens exprès, c'est pas des blagues. Hein. Je fais les provisions pour la famille. Là. J'ai prévu la glacière. Je suis là 2 jours, donc en 2 jours, je pense que je vais ramasser quelques kilos.
Mais attention, grande ou petite marée, les règles ne changent pas. Chaque pêcheur à pied a le droit de ramasser 300 coques maximum, 150 palourdes, taille minimale 4 cm pour les palourdes, 2,7 cm pour les coques.
Les pieds dans l'eau en Bretagne, les pieds sur le ballon. En Autriche, hein, pour Lille, il n'y a pas que le PSG, c'est Star qui compte. Bah oui, c'est la suite de la Ligue des Champions ce soir, deuxième journée. Et Lille donc joue en Autriche face à Salzbourg.
Voilà, les pieds dans l'eau et les pieds sur le ballon. Je retiens cette transition, je mets moins 2, si je puis me permettre. Voilà, et vous mettrez 5 euros dans la tirelire. Merci beaucoup Hélène Philippe, bien sûr. À demain.